RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. À la une, les affrontements intenses se poursuivent autour de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Ils opposent le groupe armé du M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, appuyée par des unités d'élite, des casques bleus des Nations Unies. Ça se passe à l'ouest et au nord de Goma. Nous sommes en direct de Kinshasa pour faire le point sur la situation dans un instant. Dans ce journal aussi, le compte à rebours et l'angoisse des familles d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens avant de nouvelles libérations prévu aujourd'hui, peut-être dès ce matin. Notre envoyé spécial au Proche-Orient a rencontré une détenue palestinienne libérée la semaine dernière. Elle raconte les conditions de cette libération. En Colombie, l'armée déploie 9000 soldats face à la guérilla de l'ELN dans la région de Catatumbo. On vous raconte la crise sécuritaire sur place. On parlera aussi des réactions après l'annonce du durcissement des conditions de régularisation des sans-papiers en France. Et puis, les JO de Paris, parenthèse enchantée pour la représentation des femmes dans le sport et dans les médias. Il faut poursuivre les efforts déployés pendant les JO, dit l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias.
République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a présidé hier soir une réunion du Conseil supérieur de défense.
Les principaux responsables sécuritaires du pays réunis pour évoquer la situation dans le Nord Kivu. L'escalade des combats se poursuit à une vingtaine de kilomètres à l'ouest et au nord de Goma. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Correspondante permanente d'RFI à Kinshasa, Paulina, la journée d'hier a également été marquée par la confirmation de la mort de Peter Chirimwani, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu.
Oui, le général-major Peter Chirimwani est décédé des suites de ses blessures. Il a été touché jeudi vers la ligne de front à l'ouest, évacué dans la nuit en direction de Kinshasa. Il est mort peu de temps après. Vous le disiez, depuis deux jours, les affrontements se déroulent principalement sur ces deux fronts, au nord, à l'ouest de Goma, vers Sake. Plusieurs forces interviennent aux côtés des FARDC, des Wazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa, pour contrer l'avancée du groupe armé et des Rwandais. Il y a la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, avec sa force de réaction rapide, unité d'élite de la mission. Il y a aussi les militaires de la SAMI-DRC, la force d'Afrique australe, principalement des soldats sud-africains.
Alors Paulina, la situation fait monter la tension sécuritaire d'un cran. À Goma, la ville est déjà saturée par les déplacés depuis de longs mois.
Oui, et plusieurs chancelleries ont demandé à leurs ressortissants de quitter le secteur. Des déclarations ont aussi condamné la dernière offensive du M23 et la menace que les rebelles font peser sur la capitale provinciale. L'Angola, médiateur de cette crise, demande une nouvelle fois à toutes les parties de rejoindre la table des négociations, alors que l'Union européenne durcit le ton et assure qu'elle considère, je cite, « tous les outils à sa disposition » afin de demander des comptes aux responsables du maintien du conflit armé.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa pour RFI et parmi les chancelleries qui ont demandé à leurs ressortissants de quitter le secteur, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les trois pays évoquent la dégradation rapide de la situation sécuritaire.
Au Proche-Orient, elle pourrait intervenir dès ce matin.
Le Hamas doit libérer dans la journée quatre soldates israéliennes otages à Gaza depuis octobre 2023 contre plusieurs dizaines de Palestiniens détenus en Israël. Deuxième échange prévu par l'accord de trêve entré en vigueur il y a maintenant une semaine. Dimanche dernier, ce sont trois otages israéliennes, des civils qui avaient été relâchés contre 90 détenus palestiniens, des femmes et des jeunes pour la plupart. Rencontre avec l'une de ces Palestiniennes libres depuis quelques jours. C'est un reportage de Nicolas Falaise, l'envoyé spécial d'RFI.
Assise dans le salon familial, Bouchra Al-Tawil raconte le moment où elle a compris qu'elle serait libérée et échangée. J'étais dans la cellule numéro 11, le directeur a appelé mon nom, j'ai répondu « je suis là ». Il a fallu encore de longues heures d'attente et de transfert pour que la jeune femme retrouve la liberté tard dans la nuit. La trentenaire, qui se présente comme journaliste indépendante, vient donc de passer plus de 10 mois en détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation ni procès. C'est en échange de la libération d'otages israéliennes à Gaza qu'elle a pu retrouver la liberté ces derniers jours dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les gagnants, ce sont les enfants et les femmes de Gaza, estime Bouchra. Les gagnants sont ceux qui peuvent maintenant se déplacer dans les rues de Gaza, même si c'est au milieu des ruines, ceux qui ne subissent plus le bruit des drones, des avions et le risque d'être abattus. Sur le mur du salon de la famille Al-Tawil, il y a le portrait d'un cousin mort en commettant un attentat anti-israélien. Il y a aussi des photos de Jamal Al-Tawil, le père de Bouchra, ancien maire Hamas de sa ville d'Albirée, près de Ramallah. En tout, l'homme a passé 18 ans de sa vie en prison, de nouveau arrêté en novembre 2023 et placé en détention administrative. Selon sa fille, il doit lui aussi retrouver la liberté dans les prochains jours et changer contre des otages israéliens. Mais Bouchra reste prudente. Jusqu'au dernier moment, on peut craindre qu'Israël ne respecte pas l'accord et reprenne la guerre à Gaza. Nicolas Falaise, Albirée, en Cisjordanie, RFI.
C'est un reportage que vous pourrez retrouver sur RFI.fr et c'est une agence vitale pour les Palestiniens qui vivent à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, priés de quitter ses locaux et de cesser ses activités à Jérusalem-Est d'ici la fin du mois. Elle y gère notamment des écoles. C'est l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danone, qui le dit dans une lettre adressée à Antonio Guterres, une décision qui est la conséquence directe de la loi votée par le Parlement israélien en octobre dernier et qui interdit les activités de l'agence.
Aux États-Unis, ils veulent aller encore plus loin.
Et pour eux, l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait jusqu'en 2022 de l'avortement comme droit constitutionnel n'est pas suffisant. Ils réclament désormais que plus aucun État américain n'autorise les femmes à recourir à l'IVG. Ils étaient hier dans la rue, aux États-Unis, donc pour la traditionnelle marche pour la vie. À Washington, le reportage de Guillaume Dodin.
Comme chaque année, ils sont des dizaines de milliers. Il y a de très nombreux jeunes venus de lycées ou d'universités chrétiennes, comme la Liberty University en Virginie, qui, selon sa page d'accueil, veut former des champions pour le Christ, comme Roman.
Chaque vie, qu'on soit né ou à naître, a de la valeur grâce à Jésus. C'est pour ça que je suis là. L'avortement n'est pas encore terminé aux États-Unis. Il y a des avortements chimiques et un tas de trucs qui permettent aux gens d'avorter chez eux, et il faut y mettre fin.
À la tribune, les leaders politiques républicains se succèdent pour manifester leur soutien au mouvement anti-avortement. Il y a le speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, ou le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Cela se passe à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, que vient de réintégrer Donald Trump. Et pour Victoria, étudiante à la George Washington University de la capitale, c'est une bonne occasion de lui rappeler la force de ce mouvement.
Je pense que cela envoie un message très fort à Trump, pour lui dire que beaucoup de ses électeurs comptent sur lui. Et cela en fait partie. Ron DeSantis était là. Et il dit de ne surtout pas laisser tomber le mouvement pro-vie. Ce n'est pas une chose sur laquelle vous devez transiger juste pour être élu. Donc c'est un message clair. C'est quelque chose que veulent les Américains.
Et d'ailleurs, en l'absence physique de Donald Trump, son vice-président J.D. Vance est venu parler aux marcheurs. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et puis les États-Unis, où le nouveau chef de la diplomatie américaine a annoncé le gel de la quasi-intégralité de l'aide fournie par le pays à l'étranger. Quelques exceptions, l'Égypte, Israël, ainsi que l'aide alimentaire d'urgence. L'objectif affiché par Marco Rubio, c'est de réexaminer tous les programmes d'aide dans le monde. Et puis sa nomination est confirmée, toujours aux États-Unis, par le Sénat, mais de justesse. Le nouveau patron du Pentagone s'appelle Pete Hegseth. L'ancien animateur de Fox News, vétéran de l'armée américaine et l'une des personnalités les plus controversées à avoir jamais été nommé au Pentagone. Avant sa nomination, il s'était opposé notamment à la présence de femmes dans des rôles de combat.
RFI, 7h08 en temps universel, l'armée déployée dans la région de Catatumbo, dans le nord-est de la Colombie.
À Bogota qui passe à l'offensive alors que depuis une semaine maintenant, les guerriers roses de l'ELN sont engagés dans des combats contre un groupe dissident des FARC. Le bilan de ces affrontements s'est encore alourdi. Plus de 100 morts, quelques 36 000 déplacés. La région de Catatumbo, frontalière du Venezuela, est une région de cultivateurs de coca, une région où transite la cocaïne. Précision à Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Le président de gauche, Gustavo Petro, avait promis la paix. L'horreur des violences commises par l'ELN contre la population civile du Catatumbo l'a contraint à déterrer la hache de guerre. Vendredi, le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, a annoncé le déploiement de 9000 soldats dans cette région frontière avec le Venezuela. Il a offert une récompense de 700 000 euros pour la capture des grands chefs de l'ELN qui, il y a encore un mois, étaient assis à la table des négociations de paix avec le gouvernement Petro à à Caracas. Les chefs guérilleros sont peut-être encore au Venezuela. Le ministre Velasquez a rencontré vendredi son homologue vénézuélien, le général Vladimir Padrino, pour parler sécurité et lutte contre le trafic de drogue à la frontière. Mais les relations sont très tendues entre les deux pays, Petro n'ayant pas formellement reconnu la réélection très contestée de son voisin Nicolas Maduro. La crise diplomatique pourrait compliquer encore la tragédie du Catatumbo. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
À la une, en France, le tour de vis affiché du ministre de l'Intérieur en matière d'immigration.
Bruno Retailleau qui a envoyé hier au préfet une nouvelle circulaire. Elle durcit les conditions de régularisation des sans-papiers avec notamment une bonne maîtrise du français, un séjour sur le territoire d'au moins 7 ans et l'absence d'OQTF. La circulaire est bien plus stricte que la dernière en la matière, la circulaire Valls datant de 2012 et cela inquiète l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration en Ile-de-France. Aujourd'hui, un cuisinier sur deux est issu de l'immigration dans la région, selon les chiffres de l'INSEE. Écoutez, le président de l'UMI, Franck Delvaux.
On est contre le travail illégal et on est contre ces filières qui amènent des travailleurs illégaux en France ou des gens qui sont sur le territoire sans papier. Le premier point, les gens qu'on embauche en pensant qu'ils ont des vrais papiers et qui en fait ont des faux papiers. Et ces gens-là, nous, on n'est pas en mesure de savoir s'ils ont des vrais ou des faux papiers. Par contre, ils travaillent, ils occupent un poste, ils ont un salaire, ils sont intégrés dans la vie économique et sociale de l'entreprise. Et à un moment où ils doivent renouveler leurs papiers, ils nous disent « bah non, finalement, c'est pas mon nom, c'est pas mes papiers ». Donc nous, pour cela, on dit « oui ». Il faut les régulariser, puisque ce sont des gens qui posent zéro problème. Le point 2, nous, c'est qu'on constate que beaucoup de nos salariés, qui sont étrangers, qui ont des papiers, des vrais papiers d'ailleurs, eh ben ont des problèmes quand ils doivent renouveler, parce que les préfectures sont embouteillées. Il faut maintenant, quand on veut renouveler ses papiers, prendre un créneau horaire sur le site des préfectures, qui bien souvent, quand le créneau est mis 5 minutes après, ça fonctionne déjà plus. Donc cela, oui, il faut aussi trouver un système pour que leurs papiers soient faits beaucoup plus rapidement et qu'il n'y ait pas des fois des périodes d'un mois, deux mois où ils se retrouvent sans papiers.
Le président de l'UMI en Ile-de-France, joint par Sylvie Coffi.
Enfin Jeanne, il faut capitaliser sur l'effet des Jeux Olympiques.
Ouais, l'appel de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel français, qui publie une étude sur la représentation des femmes dans les médias pendant les JO et les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Bilan désencouragement, mais il reste beaucoup à faire, Baptiste Leduc.
Les Jeux de Paris 2024 ont été ceux de la parité sur le terrain et les médias n'ont pas été loin de l'atteindre. Selon l'ARCOM, lors des JO, 42% des retransmissions concernaient des athlètes ou des équipes féminines, record olympique largement battu.
Est-ce que c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer ? Est-ce que c'était une petite parenthèse enchantée comme des fois on a peur que ça soit ?
Emmanuelle Assmann, ancienne para-escrimeuse, espère que cet élan se poursuivra jusqu'aux Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises.
Je pense que c'est un peu comme le droit des femmes, c'est-à-dire qu'il y a des victoires, mais qu'il ne faut jamais lâcher et baisser les bras et enlever de l'énergie pour se dire qu'il y a encore du chemin à faire.
Euro de football, mondial de rugby et de handball, le calendrier du sport féminin est bien chargé en 2025 et Laurence Pécaud-Rivolier, qui a conduit l'étude de l'ARCOM, attend les médias au tournant.
Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui sera fait, ça va dépendre de deux éléments. Ça va dépendre du volontarisme des éditeurs à continuer à mettre à l'écran ces sports féminins, parasports, qui sont beaucoup moins présents jusqu'à présent. Et ça va dépendre aussi, évidemment, du maintien de l'intérêt des téléspectateurs.
Son étude pointe aussi l'autre grand chantier à mener. Lors des Jeux de Paris, les femmes journalistes ont représenté seulement 18% du temps de parole à la télévision.
C'était Baptiste Leduc du service des sports.
Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. RFI Matin, troisième et dernière heure, dans un peu plus d'un quart d'heure, le journal Afrique, et juste après ce sera le journal des sports. La Première Ligue, Manchester City face à Chelsea aujourd'hui, est peut-être l'occasion de voir Omar Marmouche faire ses débuts. Vous entendrez la hâte de commencer de la recrue égyptienne de City. À suivre d'ici là, notamment jusqu'où va la science avec Caroline Lachowski et les mystères de la linguistique. Pourquoi dit-on aïe, a ou ouch, en tout cas toujours le son a quand on se fait mal, quelle que soit la langue qu'on parle. À suivre aussi les 150 ans de l'opéra Garnier à Paris, visite guidée dans notre reportage culture. Mais tout de suite la presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, et à la une, les combats dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le Congo s'embrase, l'international s'en mêle, titre Le Soir, qui met en une la photo d'un marché plongé dans l'obscurité après les dommages causés à une ligne électrique lors de violents combats. À Goma, tous aux abris, poursuit le quotidien belge. Une grande partie de la ville est privée d'eau et d'électricité. La connexion Internet est perturbée, les mobiles sont aléatoires, les commerces tournent au ralenti et les activités scolaires sont suspendues. Contrairement aux prévisions, précise Le Soir, la ville de Sake, elle-même située à 28 km de la capitale du Nord Kivu, résiste toujours aux assauts et les combats y font rage. Les civils de Goma sont surpris par l'ampleur du déploiement militaire qui prend la direction du Nord, des blindés, des lance-roquettes et même des unités parachutistes en tenue de combat. Tout se passe comme si Kinshasa mesurait que la chute de la capitale du Nord Kivu aurait un impact considérable à travers tout le pays, sinon des répercussions politiques. Sur le plan international, enfin, un nouvel acteur s'est invité sur une scène où on l'avait attendu en vain, un effort européen, remarque Le Soir. Il s'agit du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il assure que la Turquie est prête à apporter toute l'aide nécessaire pour résoudre la crise.
À la une de la presse internationale également, Catherine, les dernières décisions de Donald Trump aux États-Unis.
Et particulièrement les décisions qui concernent les immigrants. Les responsables de l'administration Trump suspendent les programmes d'accueil des immigrants, y compris des Ukrainiens, regrette le New York Times. Sont visés, nous dit-on, plusieurs initiatives qui permettaient aux immigrants d'entrer temporairement dans le pays, ce qui bloquera l'entrée de personnes fuyant certaines des régions les plus instables et les plus désespérées du monde. Outre l'Ukraine, poursuit le New York Times, ces programmes ont ouvert la voie à des immigrants en provenance de Cuba, d'Haïti et du Venezuela, entre autres. Des immigrants qui ne sont donc pas ou plus les bienvenus, alors que la Maison-Blanche met en scène les arrestations, accuse le quotidien canadien Le Devoir, avec une photo montrant plusieurs femmes et hommes sortant d'un avion militaire américain à leur arrivée au Guatemala. « Nous sortons les pires criminels du pays », a assuré Donald Trump, alors que la Maison-Blanche s'est targuée d'avoir lancé l'opération d'expulsion de masse la plus grande de l'histoire.
Enfin, en Israël, la presse parle des 4 otages qui doivent être libérés aujourd'hui par le Hamas.
Il s'agit de 4 jeunes femmes, des observatrices de l'armée israélienne qui étaient postées près de la bande de Gaza pour surveiller les mouvements côté palestinien. 15 autres femmes, également observatrices, ont été tuées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le quotidien Haaretz rappelle que l'enlèvement d'une des 4 jeunes femmes libérées, Naama, 20 ans, avait été filmé, la montrant en train d'être extraite d'une jeep sous la menace d'un pistolet avec son pantalon couvert de sang, pieds nus et boitant. Karina, 20 ans, qui elle aussi doit être libérée aujourd'hui, rappelle Haaretz, avait envoyé à sa sœur un message qui disait ceci, si je ne vis pas, prends soin de papa et maman pour le reste de tes jours, ne sombre pas, vie. Enfin, le Jérusalem Post montre la vidéo de la famille de Romy, 23 ans, libérée samedi dernier. Famille qui célébrait hier soir Shabbat au complet pour la première fois depuis le 7 octobre 2023 et qui n'oublie pas les otages toujours aux mains du Hamas. Il reste encore un long chemin à parcourir, explique la famille de Romy. Nous attendons du gouvernement israélien qui prenne toutes les décisions nécessaires à la libération de tous les hommes et toutes les femmes qui ont été enlevés.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci, à demain. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Comment exprime-t-on ses émotions dans les différentes langues du monde ? Pourquoi dit-on « aïe » quand on se fait mal ? Y aurait-il un langage universel de la douleur ? Comme semble le démontrer une étude comparative menée sur 131 langues différentes.
Aïe, aou, quand ça fait mal, c'est la voyelle A qui sort systématiquement de la bouche des humains, quelle que soit leur langue. C'est le constat de la chercheuse Maya Ponsonnet et de ses collègues de l'Université d'Australie-Occidentale, de l'Université Lumière à Lyon et de l'Université de Hong Kong, qui ont étudié les interjections de douleur, mais aussi de dégoût ou de joie, dans 131 langues différentes sur tous les continents. Résultat paru dans le journal de la Société Acoustique Américaine, en coréen, comme en sérère, en français, comme en langue aborigène d'Australie ou toupi d'Amérique centrale, on dit bien aïe ou aouche ou awa ou akai ou ayou. Toujours des variations autour du A, qui correspond d'ailleurs au cri poussé par tous les humains quand ils se font mal. Vous pouvez le vérifier si le cœur vous en dit. Quand la douleur est trop forte, on crie « Ah !» avant de dire « Aïe !». C'est ce qu'on appelle des vocalises non linguistiques qui pourraient bien être à l'origine du langage. C'est une hypothèse. Les humains auraient commencé par des vocalises « Ah !» qui deviennent des interjections « Aïe !» ou « Aouche !» ou « Akai !» compréhensibles et partagées dans nos langues respectives par nos frères et sœurs humains.
Et qu'en est-il des interjections qui expriment le dégoût ou la joie? Est-ce que là aussi, on peut parler de langage universel?
Pas vraiment. Notre burk de dégoût a évidemment des équivalents dans toutes les langues, mais aucune régularité comme les cherchent les linguistes. En revanche, pour exprimer la joie, même si c'est moins flagrant que pour le aïe de douleur, dans la majorité des 131 langues étudiées, Maya Ponsonnet et ses collègues ont mis en évidence la voyelle i, comme dans nos rires et nos sourires, surtout quand il y a de la surprise. Et c'est aussi ce qui ressort de cette étude comparative. Les émotions exprimées ont beau être aux antipodes, c'est dans l'expression et dans la manifestation de la surprise que nos interjections se ressemblent. Une douleur violente s'exprime par « aïe » ou « aouche », une joie inattendue « youpi » en « i », ce qui montre tout de même que nous pouvons partager nos émotions les plus fondamentales, nos douleurs et nos joies, dans toutes les langues et avec tous les locuteurs et locutrices du monde.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme autour de la question.
Lundi, ethnobiologie autour de la question qu'est-ce qu'une espèce? Et mardi, anthropologie autour d'une vertigineuse question que font les humains avec la vie?
Merci Caroline Lachowski.
RFI Matin.
Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, vous nous proposez une réflexion importante, loin des pixels et des boss de fin.
Oui, j'avais envie de parler du bruit incessant autour des débats woke dans l'univers du jeu vidéo. Si vous avez mis un pied sur les réseaux sociaux cette année, vous avez sûrement vu des polémiques sur la diversité dans les jeux. Certains prétendent que cela nuirait à l'industrie ou qu'il s'agit d'une mode imposée. Mais qu'en est-il vraiment? Et surtout, comment éviter de vous laisser distraire pour continuer à profiter pleinement de vos passions vidéoludiques? J'aimerais commencer par établir un fait simple. Les jeux vidéo sont un art. Et comme tout art, ils évoluent avec leur époque. La diversité que l'on retrouve aujourd'hui dans les personnages, les histoires ou les mondes reflète la richesse et la pluralité des joueurs eux-mêmes. Des jeux comme The Last of Us Part 2, Life is Strange ou encore Cyberpunk 2077 ne se contentent pas de raconter des histoires classiques. Au contraire, ils mettent en avant des personnages variés avec des identités, des origines et des vécus qui enrichissent la narration. Cela n'enlève rien aux autres types de jeux. Les FPS bourrés d'action ou les RPG épiques coexistent avec des récits plus inclusifs, créant une offre où tout le monde peut trouver son bonheur.
Mais alors pourquoi autant de polémiques, Jennifer?
Eh bien la réponse est simple, les réseaux sociaux. Ces plateformes amplifient les voix, souvent les plus bruyantes ou les plus radicales. Un jeu inclut un personnage LGBTQ+, met en avant une héroïne ou un personnage noir, et voilà que des discussions enflammées surgissent. Certains crient à une propagande woke, d'autres dénoncent un manque de fidélité à un univers. Mais soyons honnêtes, ces débats représentent en fait une minorité vocale. La majorité des joueurs se contentent de jouer, d'aimer ou de ne pas aimer un jeu pour ses qualités, pas pour ses choix de représentation. Les ventes des titres que j'ai mentionnés plus tôt prouvent que les jeux diversifiés trouvent un public et souvent ont un succès critique, mais aussi commercial.
Et Jennifer, comment ne pas se laisser distraire?
Voici quelques conseils pour ne pas vous laisser happer par tout ce bruit. Tout d'abord, rappelez-vous de pourquoi vous jouez. Le jeu vidéo est un loisir, un moyen d'évasion, de réflexion ou simplement de plaisir. Alors concentrez-vous sur l'expérience que vous voulez vivre, pas sur ce que les autres disent. Ensuite, ne vous laissez pas influencer par des arguments simplistes. Des critiques comme « la diversité tue l'industrie » manquent de fondement. L'industrie du jeu vidéo est plus florissante que jamais et les studios n'ont jamais eu autant de liberté créative. Troisième conseil, eh bien, jugez les jeux sur leur qualité globale. Scénario, gameplay, graphisme, bande-son, voilà ce qui fait un bon jeu. Si un personnage ou un thème vous interpelle, tant mieux. Et si ce n'est pas votre truc, eh bien, passez à autre chose. Ensuite, prenez du recul par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'un tweet ou une vidéo virale critique un aspect d'un jeu que cela reflète la vie générale. Alors jouez, testez et faites-vous votre propre opinion. Enfin, apprenez à apprécier la diversité comme une richesse. Jouer un personnage différent de vous, explorer un univers éloigné de votre culture ou découvrir des thèmes que vous ne connaissez pas, c'est aussi ça la magie du jeu vidéo. Voyez ça comme une opportunité de grandir et d'élargir vos horizons. Le meilleur moyen de mettre fin aux débats inutiles, c'est de laisser les jeux parler d'eux-mêmes. Qu'ils soient inclusifs ou non, ce qui compte, c'est leur capacité à captiver, émouvoir ou amuser. Si un jeu réussit à vous transporter dans son univers, alors il a accompli sa mission. Les polémiques passent, mais les grands jeux restent. Alors laissez le bruit derrière vous et profitez de ce que l'industrie a de mieux à vous offrir.
C'est dit, merci Jennifer Lufaux. RFI bientôt 7h30, en temps universel à suivre dans moins de 5 minutes. Un nouveau point sur l'info africaine, mais d'abord notre reportage culture et un repère. Dans le paysage de Paris, un monument qui fascine toujours un siècle et demi. Après son ouverture, les 150 ans du Palais Garnier, 172 spectacles par an, 350 000 spectateurs. L'opéra est toujours un cœur battant culturel et touristique de la capitale française. Marius Lafont a pu suivre une visite guidée pour cette saison anniversaire.
Je vous en prie, approchez-vous bien.
En plein cœur de Paris se dresse l'immense Palais Garnier. Les colonnes ciselées de la façade portent un lourd toit en cuivre vert. Au sommet, des statues dorées surveillent la foule qui se presse à l'entrée. Pour ces 150 ans, nous faisons une visite privilégiée avec un groupe d'une vingtaine de touristes, accompagnés par notre guide Sandrine Lamiable.
Bonjour à tous, bienvenue à l'Opéra National de Paris au sein du Palais Garnier. Nous allons donc découvrir ce théâtre dédié au ballet et à l'opéra, construit par Charles Garnier.
La sécurité passée, direction une maquette de la salle de spectacle. L'opéra est un lieu vivant, aujourd'hui il y a une répétition. Hors de question de déranger les artistes.
Je vous invite à faire un arc de cercle. Dans cette maquette, on peut voir qu'il y a un placement des spectateurs qui se fait au rez-de-chaussée, ce que l'on appelle l'orchestre. Ensuite, vous avez quatre étages de balcons. On va parler de loge de premier balcon, deuxième balcon, etc.
Nous poursuivons vers le grand escalier, un hall faramineux qui débouche sur la façade de l'opéra. Tout est doré, il y a du marbre, des statues, des chandeliers.
On a un magnifique plafond avec une multitude de couleurs. Là, il s'agit d'une mosaïque.
Nous suivons notre guide dans une galerie qui entoure la salle de spectacle. Des hublots permettent de l'apercevoir. Ici, on danse les chorégraphies de John Cranko ou Sharon Eyal. On met en mouvement la musique de Léo Delibes ou Tchaïkovski. Clément est venu de Lyon avec un ami, il est émerveillé.
Je trouve ça grandiose. J'étais en train de regarder la soie sur les murs, parce qu'elle a été faite par un des derniers canuts à Lyon, la soirée près, c'est un ami à nous.
Les costumes exposés dans cette galerie permettent de saisir le splendide des représentations.
Dans la vitrine, c'est la fameuse reine Margot, avec une robe dont le tissu rappelle le tissu de la salle de spectacle par son coloris et par les motifs floraux.
La cloche signale la fermeture du palais. À la sortie, Léna est conquise.
C'était la première fois que je venais ici et franchement, c'était plus que magnifique. On imagine vraiment les gens à l'époque s'y pavaner. Ça fait vraiment une impression de grandiosité, quoi.
Victoria vient d'Argentine. C'est la troisième fois qu'elle visite le Palais Garnier.
Je m'en lasse pas. Ça fait rêver. Et je pense que c'est un de mes endroits préférés de Paris. Je rêverais de voir un opéra ici.
Marius Lafont pour notre reportage culture et les 150 ans de l'opéra Garnier à Paris. Le journal dans une minute sur RFI. À tout de suite.
Organisé par le Centre National du Livre, les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitdelalecture.fr en partenariat avec France Média Monde. My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.